Mais ce qui, durant de telles maladies, ne prenait jamais fin, c'étaient les après-midi. Le matin, après la nuit mauvaise, on tombait toujours en sommeil, et lorsqu'on s'éveillait et qu'on croyait qu'il allait de nouveau faire matin, c'était l'après-midi, et restait l'après-midi, et ne cessait pas d'être l'après-midi. Et l'on était étendu sur son lit rafraîchi, et l'on grandissait peut-être un peu dans les articulations, et l'on était beaucoup trop fatigué pour imaginer quoi que ce fût. Le goût de la compote de pommes durait longtemps, et c'était déjà beaucoup que de l'interpréter involontairement et de laisser circuler en soi, au lieu de penser, cette sensation de propreté acidulée. Plus tard, quand les forces revenaient, des coussins étaient échafaudés derrière vous et l'on pouvait s'asseoir et jouer aux soldats. Mais il tombait si facilement sur la table de lit penchée, et toujours aussitôt la file entière à la fois. Et l'on n'était cependant pas encore assez complètement rentré dans la vie pour qu'on eût les forces de tout reprendre depuis le commencement. Subitement, c'était trop, et l'on priait qu'on vous enlevât tout cela bien vite, et il était bon de ne revoir de nouveau que les deux mains, un peu plus loin, sur la couverture vide. Quand parfois maman passait à mon chevet une demi-heure à lire des contes, mais la lectrice habituelle et véritable était Siversen, ce n'était pas pour l'amour des contes, car nous étions d'accord sur ce point que nous n'aimions pas les contes. Nous avions une autre conception du merveilleux. Nous trouvions que lorsque tout se passait naturellement, les choses étaient encore beaucoup plus étranges. Nous aurions volontiers renoncé à être transportés à travers les airs. Les faits nous décevaient et nous n'attendions des métamorphoses qu'une variation très superficielle. Mais nous lisions pourtant un peu pour paraître occupés. Il ne nous était pas agréable de devoir, lorsque quelqu'un entrait, expliquer d'abord ce que nous étions en train de faire. À l'égard de mon père surtout, nous affichions nos occupations avec une évidence presque exagérée. Et seulement quand nous étions tout à fait certains de n'être pas dérangés et que, au dehors, la nuit tombait, il pouvait arriver que nous nous abandonnassions à des souvenirs communs qui nous paraissaient à tous deux très anciens et dont nous sourions. Car depuis lors, nous avions tous deux grandi. Nous nous rappelâmes qu'il y avait eu un temps où maman désirait que je fusse une petite fille et non pas ce garçon que, mon Dieu, oui, il fallait bien que je fusse. J'avais deviné cela, je ne sais plus comment, et j'avais eu la pensée de frapper quelquefois l'après-midi à la porte de maman. Quand elle demandait alors qui était là, j'étais tout heureux de répondre du dehors « Sophie », d'une voix que j'amenuisais si bien qu'elle me chatouillait la gorge. Et lorsque j'entrais ensuite, dans mon petit vêtement d'intérieur aux manches relevées qui semblait presque un déshabillé de fillette, j'étais tout simplement Sophie, la petite Sophie de maman qui s'occupait dans le ménage et à laquelle sa maman devait tresser une natte pour qu'il n'y eût pas surtout de confusion avec le vilain Malte si jamais il revenait. Cela n'était du reste nullement désirable. Il plaisait autant à maman qu'à Sophie que Malte fût absent. Et leur conversation, que Sophie poursuivait toujours de la même voix aiguë, consistait surtout en énumération des méfaits de Malte dont il se plaignait. « Ah oui, ce Malte !» soupirait maman. Et Sophie ne tarissait pas sur la méchanceté du gamin, comme si elle en avait su encore beaucoup plus long. « Je voudrais bien savoir ce qu'est devenue Sophie, » disait alors tout à coup maman, au milieu de ses souvenirs. Et là-dessus, sans doute, Malte ne pouvait pas la renseigner. Mais lorsque maman présumait que certainement Sophie devait être morte, il la contredisait avec entêtement et la conjurait de ne pas croire cela, bien qu'il ne fût nullement capable de prouver le contraire. Lorsque je réfléchis maintenant à cela, je ne cesse de m'étonner que je sois toujours de nouveau revenu, sauf du monde de ces fièvres, et que j'ai pu me refaire à cette vie si sociale où chacun voulait être soutenu dans sa conscience d'être parmi des objets et des êtres familiers, et où l'on apportait tant d'applications à rester dans l'intelligible. Attendait-on quelque chose? Cela venait ou ne venait pas, mais une tierce solution était exclue. Il y avait des événements qui étaient tristes une fois pour toutes. Il y avait des choses agréables et il y en avait une foule d'accessoires. Que si l'on vous préparait une joie, c'était une joie et il fallait se conduire en conséquence. Au fond, c'était très simple et pour peu qu'on eût trouvé la clé de cette manière d'être, tout allait de soi. Aussi bien tout entrait-il dans ses limites concertées. Les longues et monotones heures de classe, tandis que l'été était au dehors. Les promenades, qu'il fallait ensuite raconter en français. Les visites, pour lesquelles on vous appelait et qui vous trouvaient drôles lorsqu'on était justement triste. Qui s'amusaient de vous comme on se divertit de l'expression chagrine de certains oiseaux qui n'ont pas d'autre visage. Et les anniversaires, bien entendu, pour lesquels on vous gratifiait de petits invités qu'on connaissait à peine, d'enfants timides qui vous rendaient à votre tour timides, ou d'autres, hardis, qui vous griffaient la figure et vous brisaient ce que vous veniez de recevoir, pour ensuite s'en aller subitement, lorsque tous les jouets, tirés de leurs caisses et de leurs boîtes, gisaient pêle-mêle. Mais lorsqu'on jouait seul, comme toujours, il pouvait cependant arriver qu'on franchît à l'improviste ce monde convenu et généralement inoffensif, et que l'on glissât dans des conditions toutes différentes et soudain incommensurables. Mademoiselle avait par moments sa migraine, qui s'affirmait toujours avec une rare violence, et c'était les jours auxquels il était difficile de me trouver. Je sais qu'on envoyait alors le cocher me chercher dans le parc quand par hasard mon père me demandait et que je n'étais pas là. D'en haut, d'une des chambres d'amis, je le voyais sortir en courant et m'appeler à l'entrée de la longue allée. Ces chambres d'amis se trouvaient, les unes à côté des autres, sous le pignon d'Ulsgaard, et restaient, parce qu'en ce temps-là nous ne recevions que rarement des visites, presque toujours vides. Mais à côté d'elle se trouvait ce grand réduit mansardé qui exerçait sur moi une si forte attraction. On n'y voyait qu'un vieux buste qui représentait, je crois, l'amiral Juel, mais tout autour, les murs étaient garnis de placards profonds et sombres, disposés de telle façon que la fenêtre même était placée au-dessus d'eux, dans le mur vide et blanchi à la chaux. J'avais trouvé à la porte de l'un des placards la clé qu'il ouvrait ainsi que tous les autres, et j'avais donc en peu de temps tout examiné. Les habits de chambellan du XVIIIe siècle, tout glacés par leurs trames de fil d'argent et leurs belles vestes brodées. Les tenues de l'ordre de Dannebrog et de l'éléphant, si riches, si encombrantes et ouatées de doublures si douces au toucher qu'on les prenait d'abord pour des vêtements de femme. Puis de vraies robes qui, soutenues par leurs panetières, pendaient, raides comme les marionnettes d'une pièce trop grande et si définitivement démodée qu'on avait employé à d'autres fins leurs têtes. Mais plus loin, il y avait des armoires qui paraissaient sombres lorsqu'on les ouvrait, obscurcies par les uniformes hauts boutonnés, qui semblaient plus fatigués que tout le reste et qui, au fond, ne désiraient plus d'être conservés. Personne ne trouvera étonnant que j'aie tiré tout cela au jour, que je l'ai incliné sous la lumière, que j'ai appuyé ceci ou cela contre moi, ou que je l'ai jeté sur mes épaules, que j'ai en toute hâte revêtu un costume qui pouvait peut-être me convenir, que, curieux et agité, j'ai aussitôt couru dans la chambre d'amis la plus voisine, devant les trois trumeaux composés de fragments de vitres inégaux et de couleur verte. Ah, comme on tremblait d'y être, et quelle exaltation lorsqu'on y était. Lorsque quelque chose s'avançait du fond de son eau trouble, plus lentement que vous-même, car la glace n'y croyait encore qu'à moitié, et somnolente qu'elle était, ne voulait pas répéter tout de suite ce qu'on lui disait. Mais enfin, il fallait bien qu'elle cédât. Et c'était alors une chose très surprenante, étrangère, tout autre que ce qu'on avait pensé, une chose soudaine, indépendante, qu'on parcourait d'un coup d'œil, pour cependant se reconnaître un instant après, non sans une nuance d'ironie qui, un peu plus, aurait pu détruire toute notre joie. Mais lorsqu'on commençait aussitôt à parler, à s'incliner, lorsqu'on se faisait de petits signes tout en se retournant sans cesse, lorsqu'on s'éloignait et qu'on revenait, décidé et très animé, on avait l'imagination avec soi tant qu'il vous plaisait de la voir. J'éprouvais alors l'influence que peut, sans autre intervention, exercer sur nous une tenue déterminée. À peine avais-je endossé l'un de ses vêtements que je devais avouer qu'il me tenait en son pouvoir, qu'il commandait mes mouvements, l'expression de mon visage, oui, jusqu'à mes idées. Ma main, sur laquelle tombait et retombait la manchette à dentelle, n'était nullement ma main habituelle. Elle se mouvait comme un acteur, oui, je pourrais même dire qu'elle se regardait faire, si exagérée que cela puisse paraître. Les déguisements n'étaient d'ailleurs pas poussés assez loin pour que je me sentisse devenir étranger à moi-même. Au contraire, plus diversement je me transformais et plus j'étais pénétrée de moi. Je devenais de plus en plus hardie, je m'élançais plus haut, car mon adresse à me ressaisir était indubitable. Je ne sentais pas la tentation qui me guettait sous cette impression vite croissante de sécurité. S'en fut fait de moi lorsque la dernière armoire, que j'avais cru jusque-là ne pas pouvoir ouvrir, céda un jour pour me livrer, au lieu de tenue bien déterminée, tout un vague attirail de mascarade dont le fantastique à peu près me chassait le sang à la tête. Il n'y avait pas moyen d'énumérer tout ce qui se trouvait là. Outre une baouta dont je me souviens, il y avait des dominos de différentes couleurs, il y avait des robes de femmes où cliquetaient des piécettes cousues, il y avait des pierrots qui me semblaient bêtes et de larges pantalons turcs, et des bonnets persans d'où s'échappaient des sachets de camphre, et des cercles dorés garnis de pierres stupides et inexpressives. Tout cela, je le méprisais un peu. C'était d'une si indulgente irréalité, et cela pendait là, si dépouillé et si pitoyable, et s'affaissait sans volonté lorsqu'on le tiraillait au jour. Mais ce qui me transportait, dans une sorte d'ivresse, c'étaient les amples manteaux, les étoffes, les châles, les écharpes, tous ces grands tissus souples et inemployés qui étaient doux et caressants, ou si lisses qu'on pouvait à peine les saisir, ou si légers qu'ils passaient à côté de vous comme un vent, ou simplement lourds de tout leur poids. C'est en eux seulement que je distinguais des possibilités vraiment libres et infiniment variables. Être une esclave qu'on vend, être Jeanne d'Arc, ou un vieux roi, ou un sorcier. Tout cela, on le tenait en main, surtout qu'il y avait aussi des masques, de grands visages menaçants ou étonnés, avec de vraies barbes et des sourcils épais ou relevés. Jamais auparavant je n'avais vu de masque, mais je compris aussitôt qu'il devait en exister. J'éclatais de rire lorsque je me rappelais que nous avions un chien qui semblait en porter un. Je me représentais ses yeux affectueux, qui regardaient toujours comme venant d'un autre visage dans sa tête couverte de poils. Je riais encore tandis que je me travestissais et j'en oubliais complètement ce que j'avais voulu figurer. Allons, c'était neuf et captivant de ne décider cela qu'ensuite devant la glace. Le visage que je m'attachais avait une odeur singulièrement creuse, il se posait étroitement sur le mien, mais je pouvais commodément voir au travers. Et ce n'est que lorsque le masque fut fixé que je choisis toutes sortes d'étoffes que je roulais à la manière d'un turban autour de ma tête, de telle façon que le bord du masque, qui s'étendait en bas jusque dans l'immense manteau jaune, était presque complètement caché sur le haut de la tête et sur les côtés. Lorsque, enfin, je fus à bout d'invention, je me tins pour suffisamment déguisé. Je saisis encore une grande canne que je laissais marcher à mon côté aussi loin que s'étendait mon bras. Et c'est ainsi que, non sans peine, mais lorsqu'il me semblait avec beaucoup de dignité, je me traînais dans la chambre d'amis vers la glace. Ce fut vraiment grandiose, au-delà de toute espérance. La glace le reproduisit aussitôt, c'était par trop convaincant. Il était inutile de faire beaucoup de mouvements. Cette apparition était parfaite, et sans que j'eusse à y contribuer. Mais il s'agissait à présent d'apprendre qui elle était, et je me tournais donc un peu, et finis par lever les deux bras. De grands mouvements de conjuration, c'était là, me semblait-il, ce qui convenait. Mais précisément, à cet instant solennel, j'entendis, assourdi par mon déguisement, tout à côté de moi, un bruit multiple et composé. Effrayé, je perdis de vue l'être de l'autre côté de la glace et fus fort mari de voir que j'avais renversé un guéridon rond avec Dieu sait quels objets sans doute très fragiles. Je me penchai tant bien que mal et vis mes pires craintes confirmées. Tout semblait s'être brisé. Bien entendu, les deux inutiles perroquets en porcelaine vert-violet étaient assommés, l'un plus méchamment que l'autre. Une bonbonnière laissait rouler ses bonbons qui semblaient des insectes dans leur chrysalide de soie et avait rejeté très loin son couvercle. On n'en voyait qu'une moitié, l'autre avait disparu. Mais le plus fâcheux, c'était un flacon écrasé en mille petits éclats et d'où avait jailli le reste de je ne sais quelle essence ancienne qui formait à présent sur le parquet une tache d'une physionomie très repoussante. Je l'essuyais vite avec je ne sais quoi qui pendait autour de moi, mais elle n'en devint que plus noire et déplaisante. J'étais vraiment désolée. Je me levai et cherchais quelque objet qui me permît de réparer ce désastre, mais je n'en trouvais point. J'étais également très gênée dans la vue et dans mes mouvements, de sorte que je sentis la colère monter en moi contre cet accoutrement absurde que je ne comprenais plus. Je me mis à tirailler de tous côtés, mais cela ne s'en resserrait que plus étroitement. Les ficelles du manteau m'étranglaient, et l'étoffe appuyait sur ma tête comme s'il s'en ajoutait sans cesse de nouvelles. De plus, l'air était devenu trouble et c'était comme embué de la senteur vieillotte du liquide répandu. Bouillant de colère, je m'élançai devant la glace et je suivis le travail de mes mains en regardant avec difficulté à travers le masque. Mais il n'attendait que cela. Le moment de la revanche était venu pour lui. Tandis que dans une angoisse qui croissait sans mesure, je m'efforçais de m'évader en quelque façon de mon déguisement, il me contraignit par je ne sais quel moyen à lever les yeux et m'imposa une image, non, une réalité, une étrange, incompréhensible et monstrueuse réalité qui me pénétrait malgré ma volonté. Car à présent, il était le plus fort. Et c'était moi le miroir. Je fixais ce grand et terrifiant inconnu devant moi, et il me semblait fantastique d'être seul avec lui. Mais tandis que je pensais cela, le pire arriva. Je perdis toute conscience de moi. Je cessais d'exister, tout simplement. Une seconde durant, je ressentis un indicible et douloureux et inutile regret de moi-même. Puis il ne resta plus que lui. Il n'y avait rien hors lui. Je me sauvais, mais à présent, c'était lui qui courait. Il se cognait partout. Il ne connaissait pas la maison. Il ne savait vers où se diriger. Il descendit un escalier. Il culbuta dans le couloir sur quelqu'un qui se débattit en criant. Une porte s'ouvrit. Plusieurs personnes parurent. Ah, qu'il était donc bon de les connaître! C'était Siversen, la bonne Siversen, et la femme de chambre, et le garde-vaisselle. Maintenant, la question allait être tranchée. Mais ils se gardaient bien de se jeter à votre secours. Leur cruauté était sans limite. Ils étaient là, et riaient. Mon Dieu, comment pouvaient-ils donc rester là et rire? Je pleurais, mais le masque ne laissait pas échapper les larmes. Elles coulaient à l'intérieur. Sur mon visage, et séchait, et coulait à nouveau, et séchait encore. Et enfin, je m'agenouillais devant eux, comme personne ne s'est jamais agenouillé. Je m'agenouillais, et j'élevais les mains vers eux et suppliais. Sortez-moi si cela va encore, et ne me rendez plus. Mais ils n'entendaient rien, je n'avais plus de voix. Siversen racontait jusqu'à sa mort comment j'étais tombée à la renverse et comment ils avaient continué de rire, croyant que cela faisait partie du jeu. Ils étaient habitués à cela de ma part, mais ensuite j'étais restée étendue et je n'avais pas répondu. Et quelle frayeur lorsqu'ils découvrirent enfin que j'étais sans connaissance et que j'étais couchée là, comme un morceau de quelque chose au milieu de ces toiles. Oui, comme un morceau.